Radio G.
101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir et bienvenue pour cette dernière émission de la semaine, l'occasion de vous présenter de quoi on vous parlera la semaine prochaine. Bah, lundi c'est férié, donc nous ne serons pas là, on sera en repos avec Nolwenn et le reste de l'équipe. Mardi on sera avec le THV, mercredi on sera depuis les locaux de WeForge et jeudi nous serons accompagnés de l'ONPL, enfin une petite partie de l'ONPL pour parler de médiation culturelle et on sera avec Willy également, le retour de Willy. Pour Cours en folie, ce soir, très rapidement, on va parler des JNP, les Journées Nationales des Prisons. Alors au programme, samedi 16 novembre prochain, une cellule qui sera exposée en ville. Et mardi 19 novembre prochain à 20h, au 400 coups, il y aura un film suivi d'un débat, bien évidemment. On sera avec Françoise et Brigitte qui nous avaient respectivement déjà parlé des JNP l'année passée. Et en deuxième partie d'émission, on sera avec Bruno Savary pour évoquer un projet d'habitat participatif qui s'appelle A. Vernet Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, parce qu'il fait un petit feu, un petit peu fin à l'approche de l'heure du repas, on va aller avec Sarah découvrir une adresse angevine. On s'intéresse ce soir à l'ardoise.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où ? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Salut mes petits gourmands! Aujourd'hui, c'est Spotlight sur mon restaurant préféré à Angers, j'ai nommé l'Ardoise. Tout d'abord, le décor magnifique qui mêle vieilles pierres, murs de bouteilles, tables rondes individuelles, banquettes, manches debout, pour nous offrir une atmosphère conviviale, chic et animée. L'accueil est toujours très chaleureux et attentionné, et le chef vient vous détailler et vous explique la carte avec tout son savoir-faire et son amour de la cuisine. La plus grosse difficulté ici, vous l'aurez compris, va être donc de faire un choix. La mise en bouche déjà envoie du lourd. Focaccia avec une crème d'anchois et citron vert. C'est dingue, tellement goûteux, franc et gourmand. Franchement, vous en connaissez beaucoup, vous, des restaurants où dès la mise bouche, on découvre et on est emporté? Moi, non. On opte pour 3 antipastis à partager. Et c'est ce que j'aime tellement à l'ardoise. Plein d'entrées alléchantes et donc on peut en déguster plusieurs, picorer, piocher, découvrir et partager un vrai moment convivial autour d'un moment apéritif. Le premier, pulled pork, présenté comme un vitello tonnato. Un pur régal. La crème avec l'anchois, les croutons, les pickles, les olives. Chaque bouchée est un orgasme culinaire. Les goûts sont tellement directs, forts, mais maîtrisés. Tout s'accorde à merveille. Seconde entrée à partager, les barbadians. Barbaquois ? Barbadians. Sorte de ravioli originaire de Menton, réalisé avec les restes de bœuf et de petits légumes, le tout frit. Hyper moelleux et parfumé, un vrai bonheur, incroyable. Belle découverte de cette spécialité du sud de la France, cuisine si généreuse qu'on retrouve trop peu chez nous. Troisième recette à partager, ricotta et choux rouges, croquant et bien relevé grâce à la coriandre, sublime et très frais. J'hésite longuement pour le choix de mon plat et le chef arrive à me convaincre de goûter son cacciucco. Oui, je me suis entraînée une soirée entière pour réussir à le prononcer du premier coup sans l'écorcher. Tentacule de poulpe grillé à la perfection et super tendre, moule dans un bouillon avec une base de vin, poisson, tomaté et bien relevé grâce au enduja. Splendide. C'est original, généreux et tellement goûteux. Le chou farci et foie gras sont tout autant délectables. Un vrai jus corsé au vin rouge et faites-moi confiance, on reconnaît un bon chef à ses sauces. Et là, à chaque sauce, on veut encore et encore déguster. Et surtout, on sauce avec son pain jusqu'à la dernière goutte. Ici, on découvre à chaque bouchée de nouvelles saveurs. Ici, on en prend plein les papilles. Ici, ça cuisine avec passion, avec amour, avec talent. Ne cherchez plus, c'est là-bas que vous devez aller. L'Ardoise est au 7 Place Molière à Angers, ouvert du mardi au samedi midi et soir. Et tous les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi.
Et ben ça y est, maintenant on a faim. Et personnellement, pour avoir testé cette adresse, je recommande, je m'en joins à Sarah pour vous faire ses recommandations de l'Ardoise à Angers. Dans l'introduction, j'ai oublié de vous parler quand même. Il y aura la crocro de Charlie, bien évidemment, à 18h30. Mais avant tout ça, on accueille nos premiers invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Brigitte.
Bonsoir.
Et bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Ensemble, nous allons parler des JNP, des JNP, Journée Nationale des Prisons. À Angers, précisément, on aura deux jours marquants, le samedi 16 novembre et ensuite le mardi 19 novembre. Samedi 16, une cellule sera exposée en ville. Alors j'imagine que c'est une cellule pour donner une illustration de ce à quoi peut ressembler une cellule en prison. Et mardi 19 novembre, au 400 coups, aura lieu un film, la diffusion d'un film qui s'appelle Des hommes, suivis d'un débat, bien évidemment. Alors pour celles et ceux qui sont habitués à écouter cette émission, peut-être se souviennent-elles de votre venue l'an passé. L'occasion peut-être déjà de rappeler dans un premier temps les JNP, ce que c'est. Brigitte, je vois que tu me regardes, tu as des éléments de réponse, je crois.
Les JNP, c'est une manifestation qui a lieu chaque année, qui dure environ une semaine dans toute la France, et qui existe pour sensibiliser le public à tous les problèmes de la prison, d'une manière générale, aussi bien pour les détenus que pour cette année, par exemple. Le thème est la prison, une peine familiale, c'est-à-dire qu'on va essayer de sensibiliser le public aux problèmes liés à la famille des détenus et aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer.
Oui, j'imagine qu'il y a énormément de sujets à aborder, à la fois du côté des personnes en situation de détention qui peuvent avoir du mal à se réinsérer, qui peuvent être stigmatisées aussi dans la société. Donc tout ça, c'est d'ailleurs l'enjeu aussi de vos associations respectives, puisque je ne les ai pas présentées. Toi, Brigitte, tu fais partie de l'ANVP, l'Association Nationale des Visiteurs de Personnes sous Main de Justice. On pourra en parler tout à l'heure. Oui. Et toi, Françoise, tu fais partie des Alcooliques Anonymes, qui est aussi parmi les 9 associations impliquées sur les JNP. Si maintenant on parle directement de cette cellule qui sera mise, alors elle sera mise où en ville, Françoise ?
Alors elle sera mise en bas de la place Saint-Bac, juste à l'entrée de la petite rue qui va à place du Pilori, qui rejoint place du Pilori. On était là l'année dernière aussi, donc ça se passe. Cette cellule a été construite par des bénévoles et par des compagnons d'Emmaüs. Elle sera montée par eux d'ailleurs. Samedi matin, le 16 novembre, elle va rester toute la journée. Et moi, j'y ai participé l'année dernière. On était toutes les deux avec Brigitte de 10h à midi. On va refaire pareil cette année. Et j'ai été très touchée par le nombre de gens que ça intrigue et qui s'arrêtent. On leur demande rien, hein. Nous, on met juste une cellule pour que les gens voient et on donne nos flyers pour le film du mardi 19.
Oui, parce que souvent c'est les personnes, c'est des sujets qu'on met un petit peu sous le tapis vis-à-vis de la société. On évite de regarder un peu les problèmes. Et justement, ce sera l'occasion de Brigitte, peut-être que pardon Françoise, que tu allais en parler de ce film Des hommes aux 400 coups. Ça va être l'occasion d'aborder justement de pas fermer les yeux face à ce sujet des personnes en détention. Oui. De quoi parle ce documentaire, ce
Alors,
film,
ce,
Françoise
ce documentaire de ah vas-y.
Vas-y.
Françoise qui est dessinée.
Comment ?
Ah oui,
c'est Françoise qui est dessinée. Non, c'est pas Brigitte. Brigitte, pardon, je confonds vos prénoms.
Oui, Brigitte l'a vu plus que moi.
Voilà, prénoms. Brigitte.
J'ai vu une fois.
C'est un documentaire d'Alice Audio et Jean-Robert Vialet qui décrit la vie telle qu'elle est dans une maison d'arrêt. Il s'agit d'un film qui a été tourné en 25 jours dans ce qui était la prison des Baumettes, qui avait été construite, si je me souviens bien, entre 1933 et 1939, donc une très ancienne prison.
À Marseille.
Donc on voit à la fois la vétusté de la prison, mais surtout le film met l'accent sur la vie menée par les détenus en détention. Donc il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de commentaires, c'est juste une musique très particulière, je dirais, qui est de Marek Unap. Donc c'est une bande-son électro qui est très particulière, mais qui suit bien. Donc on voit des détenus dans leur vie de tous les jours faire de la musculation, faire la queue, aller à la commission de discipline, mais surtout ce qui est frappant, c'est la solitude qu'on peut voir de ces personnes qui à la fois ont une promiscuité physique, mais qui en même temps ont de grosses difficultés par rapport à ce qui les attend, je dirais, et à ce qui va être leur peine. Alors, ça se passe donc à Marseille, où c'est une très très grosse prison. À l'époque, on avait un très grand nombre de détenus. Il est marqué sur le flyer que... très grand nombre de détenus, et surtout la moitié de la prison était remplie par des jeunes de moins de 30 ans et qui étaient pour la plupart des récidivistes. Et on les voit donc perdus un peu dans cet univers carcéral qui est à la fois, comme je vous le disais, un lieu où ils n'ont aucune intimité et surtout un lieu de souffrance et un endroit où ils sont en attente de quelque chose sans savoir trop bien ce qu'ils attendent finalement.
Et suite à cette projection, donc, il y a un débat. Alors, le débat, il sera axé autour de quels propos qui va l'animer ?
Dans le film, il y a un moment où il y a quelqu'un qui dit dans le film que les enfants manquent, la famille manque, il y a tout qui manque. Voilà, un détenu dit ça dans le film. Et ça suit très bien avec le sujet de cette année, qui est, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la prison, une peine familiale. Et où on va traiter lors du débat de tous les problèmes qui ont trait à ce sujet.
Et alors, pour qui, à qui se destine cette projection ? On est sur des personnes qui sont concernées de près ou de loin, peut-être qui ont vécu la détention ou qui ont des proches ou qui sont en détention, Brigitte, Françoise ?
Alors, nous faisons, personnellement, par exemple, je vais à la fac de droit pour sensibiliser un peu les étudiants pour qu'ils viennent en grand nombre, ce qui a été le cas l'année dernière d'ailleurs. Et sinon, la cellule, par exemple, en ville, et là pour ça, c'est-à-dire aussi pour amener les gens, on parle beaucoup de la soirée, et ça amène un public
dans un autre domaine, ce serait une opération marketing,
c'est exactement ça.
Mais bien sûr, là, il n'y a pas d'idée de consommation. On va continuer à en parler de ces deux JNP, en tout cas sur le territoire angevin, et puis aussi parler de vos associations respectives. Brigitte et Françoise, avant tout ça, on fait une très courte pause musicale avec Andy de Théophile.
Tu veux sortir un peu de là, je peux t'aider à t'évader. Tu dois partager tes faisceaux de lumière dans 6 mètres carrés de poussière. Tu retiens tes larmes de colère. Justice pour entrer, cicatrice en retour. Tu aimerais rentrer sans repasser par la cour. C'est comme un cercle infini. Tu m'as dit c'est jamais fini. C'est comme attendre la folie, les yeux ouverts toute la nuit.
Andy de Théophile sur le 101.5 FM, une chanson qui aborde les conditions de détention, la vie en cellule au travers de témoignages d'un prisonnier, d'un détenu. Et justement, on en parle ce soir dans Topette, puisque ce sont bientôt les JNP, les journées nationales, la journée nationale des prisons d'ailleurs. Les journées, il y en a plusieurs. Il y en a deux en tout cas sur Angers, celle du 16 novembre et celle du mardi 19 novembre. Elles sont en lien, bien évidemment. D'abord, une cellule qui est exposée en ville pour intriguer, interpeller. interpeller les gens avant de leur proposer un documentaire, un beau documentaire qui s'appelle « Des hommes aux 400 coups » le mardi 19 novembre à 20h, suivi d'un débat, bien évidemment. Françoise et Brigitte, on a présenté brièvement tout à l'heure vos associations respectives qui sont impliquées dans ces JNP sur Angers. Peut-être qu'on peut étendre un peu le sujet. Françoise, je me tourne vers toi. Les alcooliques anonymes, alors c'est souvent caricaturé, on en entend beaucoup parler, souvent pour tourner un petit peu en dérision. C'est une vraie association qui existe, bien évidemment. Première question, le lien, comment on peut faire le lien entre les alcooliques anonymes et les conditions de détention, le milieu carcéral?
Alors, le premier lien, le plus simple en fait, c'est que les alcooliques anonymes, on a un programme de 12 étapes. Et la 12e étape, notre dernière étape, c'est d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Et ça marche. C'est aussi thérapeutique pour nous que quand on aide des gens. Et donc, oui, quand j'ai transféré le texte là sur les AA en maison d'arrêt à Angers, quand j'ai vu que c'était depuis janvier 94, en descendant chez toi, Brigitte, tout à l'heure, je me suis dit, ça fait plus de 30 ans, quoi. En fait, parmi les alcooliques anonymes, les groupes d'Angers, on est un petit groupe qui a eu le souhait d'intervenir à la maison d'arrêt d'Angers. Moi, j'y vais, ça doit faire la 5e année. Et je m'en souviens qu'au début, pour décider ou pas de faire ça, ça m'attirait autant que ça me faisait peur. Et en fait, dès la première fois, j'ai dit, c'est bon, j'ai trouvé du sens. Voilà. Donc, en fait, je peux vous donner un chiffre qui est très parlant, puisqu'on est allé il n'y a pas longtemps à la table ronde de la Ligue des droits de l'homme sur la surpopulation carcérale. Il y a 2/3 des incarcérations qui sont liées aux addictions. Pas que l'alcool, hein. 2/3. Voilà.
Donc c'est à la fois une cause et enfin une conséquence et même oui. Une cause, puisque du coup j'imagine que les conditions peuvent ne sont pas un facteur pour aider à sortir de ça, de l'alcoolisme.
Non, et nous justement quand on intervient là-bas, donc on y va les vendredis des semaines paires, donc un vendredi tous les 15 jours, de 14h à 16h30, et il y a une liste de détenus, c'est eux qui s'inscrivent, et après c'est le BGD qui trie ceux qu'on peut avoir en réunion ou pas, et on fait une réunion A avec eux. Et c'est très très riche, c'est des beaux partages aussi. Il y en a, on sent que c'est parce qu'ils auront un papier pour se justifier auprès de la juge, ça justifie qu'ils font quelque chose pour s'en sortir. Il y en a beaucoup qui arrivent pas à dire au début, bah oui, je suis là à cause de l'alcool, j'ai fait... Et puis en fait, au fil des... Quand on apprend à les connaître, si on y reste un peu longtemps, on les voit plusieurs fois et ça chemine. Je me dis que voilà, c'est une perche qu'on tend. Ils nous connaîtront, on sera plus des inconnus pour eux, pris en dérision ou ouais, dans tous les films américains ou pas d'ailleurs. Mais voilà, moi je me dis toujours le but premier, c'est d'essayer de leur éviter de récidiver à cause de ça. En tout cas, voilà.
Eh ben merci beaucoup François, ouais. C'est un beau témoignage, tu nous as bien expliqué, bien donné à voir à quoi servait, quel rôle pouvaient avoir les alcooliques anonymes dans ces journées nationales des prisons et puis aussi auprès des prisonniers bien évidemment dans l'accompagnement, lien beaucoup plus évident du coup avec toi Brigitte et la NVP. Pour représenter très succinctement l'Association Nationale des Visiteurs de Personnes Sous Main de Justice, l'idée c'est de ne pas perdre le lien social et de déjà penser à l'après finalement.
Oui, c'est ça. Françoise vient de nous parler de la réinsertion. Bon, même si c'est pas l'objectif prioritaire de la NVP, moi, ce que j'ai toujours en tête quand je vais visiter un détenu en prison, puisque nous sommes une vingtaine de visiteurs à Angers, et qu'on en suit soit un, soit deux par visiteur, ben c'est toujours justement ce côté réinsertion, cette façon qu'on a de leur parler de la vie de l'extérieur pour les laisser en lien avec voilà la société, mais aussi leur montrer que on a envie de garder ce côté humain, ce rapport très particulier qu'on peut avoir, non pas avec un surveillant comme ils ont l'habitude de l'avoir ou avec d'autres co-détenus, mais avec des personnes qui viennent de l'extérieur et qui s'intéressent tout simplement à eux comme eux vont s'intéresser à nous. C'est quelque chose à la fois d'intime. Bon, on les reçoit dans un bureau, l'entretien dure en général autour d'une heure, je dirais, Et donc, comme je vous le disais, se crée quelque chose, un lien de confiance, un lien d'intimité. Intimité au sens où les détenus vont nous dire plein de choses qui ont trait à leur passé, à leur présent. Et évidemment, nous sommes tenus à la confidentialité. Mais voilà, c'est une relation très riche qui se forme et je dois reconnaître que ben moi quand j'y vais, chaque fois, moi j'y vais le jeudi matin et le jeudi après-midi par exemple, et je suis contente d'y aller parce que je sais que je vais faire une belle rencontre quoi. Donc on les suit plus ou moins longtemps puisque c'est une maison d'arrêt et il y en a certains qui restent plus ou moins longtemps. Il y a même des détenus qui ont une famille, mais qui ont envie de rencontrer d'autres personnes que leur famille ou que et qui demandent à rencontrer un visiteur pour avoir justement ce type de conversation et ce type d'entretien particulièrement agréable, je dirais. C'est vraiment quelque chose d'agréable.
Les journées nationales des prisons sont donc l'occasion de pointer à la fois du doigt les problématiques, de dire ne fermons pas les yeux sur ces problèmes de société, sur les conditions de détention, ne laissons pas à l'abandon une partie de la population, quoi qu'elle ait pu faire, ne la stigmatisons pas, et en même temps c'est aussi l'occasion de découvrir au moins vos deux associations, parce que vous êtes là ce soir au micro de Topette. Bien évidemment, il y en a sept autres, si je calcule rapidement de tête, qui sont impliquées sur ces JNP à Angers. On pourra aller en parler tout à l'heure, et puis même redonner les informations pratiques concernant la projection des hommes. Ce ciné-débat au 400 coups le mardi 19 novembre prochain à 20h. Brigitte et Françoise, vous restez avec nous bien évidemment. On va faire un petit détour par Saint-James-sur-Loire dans quelques instants. Mais avant tout ça, la crocro de Charlie, vous l'attendez, la voici, la voilà.
Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter...
La crocro, la chronique de Charlie.
En voiture, Simone !
Non mais sérieux ? La crocro, la chronique de Charlie.
J'adore le hula-hoop !
Ironique, absurde, réfléchi. La crocro, la chronique de Charlie.
J'ai mangé une méduse.
Survolté, décalé, déjanté. La fofo, la folie de Charlie.
J'ai hésité à venir aujourd'hui. Parce que ma dernière chronique n'a pas eu de succès. Même toi, Pierre Benoît, tu ne likes plus ma crocro. Et même quand je fais ma chronique, ça me fait mal de te voir lire un livre. De toute façon, Pierre Benoît, je vois bien que tu n'y es plus. Tant il est évident que tu fais semblant de t'intéresser à tes invités, alors qu'en fait, tu t'en fous. Tu veux juste te barrer de cette ville de bisounours et réveiller le punk qui est en toi. Même mes amis ne likent plus mes chroniques, donc pourquoi continuer alors que je pourrais très bien me droguer? J'ai failli ne pas venir et je me suis dit... Eh bien, je vais faire du plagiat, du pur plagiat assumé. Et bingo, je tombe sur une très bonne chronique sur France Inter, la radio socialiste. Qui en est l'auteur ? Allez, je limite, à vous de deviner, je sais pas si vous écoutez un peu France Inter, écoutez le style. Et je bim, vas-y que je fais rire grave sa mère et que tu prends ma blague en plein dans ton visage. Alors, est-ce que vous avez une idée ?
Visuellement, oui, mais j'ai pas le nom.
David Castello-Lopez. Rien à voir avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais au moment où j'ai pensé à ce mot de plagiat, un souvenir a jailli dans mon esprit. C'est le jour où j'ai découvert ce mot. Il était écrit dans un flyer de la région Basse-Normandie qui parlait d'une bourse qui était attribuée aux lycéens pour qu'ils puissent partir en vacances pendant l'été. Quand je tombe sur ce genre de flyer, mon sang vénal ne fait qu'un tour. Quelle belle affaire que d'encaisser de l'argent public sans effort. D'ailleurs, Adrien est comme moi. Tu sais, Adrien, le chroniqueur fantôme...
Hein, je like pas non plus ces publications. Ouais.
Celui qui est aussi présent à la radio qu'un député RN au Parlement européen. Donc, quand Charlie la malice découvre cette bourse, il en parle à des copines et nous voilà tous les quatre partis pour Barcelone, la capitale catalane qui, à l'époque, faisait encore partie de l'Espagne. Le pays qui, à l'époque, n'avait pas encore été englouti. Pour toucher cette bourse régionale, il fallait rédiger un compte-rendu de notre voyage sur un sujet de notre choix et surtout sans plagiat. Mais que choisir comme sujet ? Eh bien, en feuilletant le guide du routard, j'avais lu cette phrase. L'architecture gothique à Barcelone pourrait faire l'objet d'un chapitre entier tant elle est présente dans la ville. Mon sujet était tout trouvé. Alors avec mes amis, nous avons fait les touristes, nous baladant sous le soleil, découvrant la ville, la Sagrada Familia, les parcs Güell, goûtant les tapas, la sangria, ainsi qu'un peu de cannabis. Je pense bien à récupérer mes tickets de caisse pour justifier mes dépenses, ainsi que ceux que je trouve sur mon chemin afin de gonfler mes notes de frais. Un vrai petit Balkany. Et pendant que je me dors la pilule sur la plage, je recopie tous les passages du guide du routard qui parle des églises et des chapelles gothiques de Barcelone. Et ainsi, je remplis mon compte-rendu de voyage. Compte-rendu que j'ai envoyé et qui m'a permis de toucher plusieurs centaines d'euros. Une affaire rondement menée. Les années passent et un jour, je vais dans mon grenier et je tombe sur ce compte-rendu dont j'avais gardé un exemplaire. Le titre, l'architecture gothique à Barcelone, je relis ma conclusion dans laquelle il fallait mettre son appréciation du sujet. Je cite, véridique, « J'ai beaucoup aimé l'architecture classique de Barcelone. » Voilà, magnifique. Tout mon sujet est sur l'architecture gothique et à la fin, en conclusion, je dis l'architecture classique. Comme quoi, le plagiat et l'humour payent. Hein. Merci la basse Normandie de m'avoir liké.
La croco. Ironique, absurde, réfléchie, survoltée, décalée, déjantée. La chronique de Charlie.
Eh ben, merci beaucoup, Charlie. Tu vois, je crois que tu auras un like en plus. Brigitte a beaucoup rigolé à tes propos. Brigitte, qu'on va retrouver dans quelques instants. Mais avant tout ça, toi, Charlie, on te retrouve bien sûr dans deux semaines. Avant tout ça, on va faire un petit détour du côté de Saint-James-sur-Loire.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Et ça se passe avec toi. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir. Et ce soir, on est avec Bruno Savary. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie du projet de l'association Avernet. C'est un projet d'habitat participatif. Et il y aura une réunion publique qui aura lieu le 19 novembre pour s'informer sur ce sujet. Mais avant de parler directement du projet, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu c'est quoi l'habitat participatif?
D'accord, mais merci. L'habitat participatif, en quelques mots, c'est quand un groupe de personnes se regroupe pour imaginer, concevoir ensemble un projet d'habitat qui concerne leur logement. Alors, selon leurs besoins, qu'est-ce qu'ils imaginent pour eux-mêmes? Et la particularité de l'habitat participatif, c'est que ces personnes qui se regroupent, ils ont aussi le souhait de partager des espaces communs qui seront accessibles à chacun d'eux. En plus de la partie privative, il y a un certain nombre d'espaces qui vont être des espaces partagés. Et c'est ça qui va faire l'objet donc de discussions, d'échanges dans le groupe pour bien définir justement les projets individuels et la combinaison avec des projets du groupe.
Et quelle va être la différence avec l'habitat participatif, collectif, solidaire? C'est quoi la différence entre tous ces habitats?
Il y a beaucoup. L'habitat participatif, aujourd'hui, il est particulièrement développé. Il y a de plus en plus de projets. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Alors là, ça va de l'habitat inclusif, ça va de l'habitat senior. On peut même... Quand il s'agit de colocation, on peut considérer quelque part c'est de l'habitat participatif. Alors voilà, il y a une dénomination qui est assez large. Il y a à peu près plus d'un millier d'habitats participatifs qui existent en France. Des projets, il y en a peut-être autant. La question, je me souviens plus en fait.
C'était quoi justement la différence entre participatif, collectif, solidaire?
En tout cas, toutes ces dénominations là existent. La solidarité, effectivement, elle va être un des principes qui vont conduire le projet. La solidarité, parce que quand on travaille ensemble sur ce type de projet, bien entendu que les gens se connaissent et la solidarité, elle va exister de fait dès que les gens vont habiter sur place. Ce qui est pas forcément le cas dans les programmes immobiliers classiques où évidemment les gens se connaissent pas et c'est d'ailleurs assez rare que dans les programme immobilier d'aujourd'hui, on prenne l'avis des habitants qui vont occuper les logements avant de les construire. C'est plutôt, ça se fait, les gens arrivent et ils prennent ce que le promoteur a prévu pour eux.
Si j'ai bien compris, du coup, l'habitat participatif, c'est une casquette qui regroupe finalement le collectif, le solidaire, ça regroupe tout
ça. Avec des particularités, des singularités qui sont liées évidemment au groupe, qui sont liées au terrain qui va être occupé, qui va être aussi lié, les particularités liées au mode juridique qui va être adopté pour construire ce projet. Là, en l'occurrence, sur le projet de l'Avernet, ce qu'on envisage, c'est une coopérative d'habitants.
Ça vient d'où cette idée d'habitat participatif? C'est né où?
Alors, c'est né... Euh, y a eu, Sur Angers, en fait, c'est une terre végétale où il y a beaucoup de choses qui poussent et il y a aussi bien sûr des bonnes idées qui poussent. Alors, je ne sais pas. En tout cas, sur Angers, il y a un habitat participatif qui a vu le jour il y a une trentaine d'années. Vous voyez, c'est un peu maintenant le doyen, je ne sais pas, probablement un des plus anciens habitats participatifs de la région. Il s'appelle Habitat Différent. Et en fait, il y a une dynamique qui s'est créée autour de ce type d'habitat. Voilà, ça s'est développé comme ça, petit à petit. Alors, est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. En tout cas, c'est au-delà des expériences particulières de tel ou tel groupe, je crois qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui va tendre vers contrer un petit peu l'individualisme qu'il va y avoir de manière ambiante dans toute la société. Donc là, il y a un souhait de un petit peu construire des choses faciles pour améliorer la vie collective.
Justement, vous parlez d'individualisme, les habitats participatifs, il y a beaucoup de mixité sociale, souvent ça mixe des seniors, des couples, des enfants.
Alors c'est particulièrement ce qu'on souhaite, hein, nous, c'est construire un habitat qui soit intergénérationnel, parce que en soi c'est une richesse, voilà, c'est une option hein, qu'on a prise, faire en sorte que dans notre futur habitat, on puisse regrouper des familles de différents origines professionnelles ou sociales et aussi de différentes compositions. Ça serait vraiment notre l'idéal qu'on puisse réunir des gens avec des enfants, des jeunes enfants, des célibataires, des personnes seules, des personnes plus âgées, etc.
Est-ce que c'est un point commun sur les habitats participatifs de manière générale ou pas nécessairement?
Pas nécessairement. Il peut y avoir des choix plus fermé.
Je ne sais pas s'il y a un lien entre participatif collectif. J'ai un exemple en tête, je crois que c'est au Danemark, à Copenhague. Il y a des résidences comme ça où on mixe aussi les fonctionnalités des ensembles immobiliers.
Le principe, en fait, c'est de partager des espaces, bien entendu, mais aussi de partager des choses qui sont de l'ordre immatériel, de partager des services, de partager des idées, de partager des compétences. Donc, on peut, à partir de ce modèle-là, on peut imaginer d'autres modèles, et ça va s'appliquer, alors, dans certains pays, selon les cultures, selon les traditions, selon les envies aussi de chacun. Ça peut se traduire par des choses plutôt élaborées. Je pense au Danemark, il y a des maisons qui existent comme ça, qui accueillent des personnes qui ont des parcours difficiles et qui peuvent se mélanger avec d'autres personnes qui sont plus qui ont des vies plus ordinaires.
La mixité sociale, comme on appelle.
C'est ça. Et c'est de la richesse, quoi. C'est pas une difficulté.
Est-ce que ça permet de répondre aussi à l'habitat collectif à une sorte de question écologique aussi?
Bien sûr. Il y a dans toute, c'est aussi une particularité de la globalité des habitats participatifs. Il y a une dimension écologique, de vouloir réduire l'empreinte écologique. Alors ça peut être par des matériaux particuliers, biosourcés, etc. Ça peut être de l'orientation des bâtiments, mais ça peut être aussi autour du mode de vie. C'est-à-dire est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une voiture pour chaque famille, ou est-ce qu'il n'y a pas nécessité, il n'y a pas un intérêt par exemple à partager des modes de transport. Voilà, nous c'est quelque chose qui nous guide particulièrement. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de vivre dans la périphérie d'Angers, dans une commune qui soit proche des transports en commun, pour éviter d'utiliser les voitures individuelles.
Et on va continuer à en parler avec toi Bruno et toi Nolwenn, bien évidemment, sur le 101.5 FM. On fait juste une nouvelle pause musicale. Et si tu chantais de Johan au Johan?
Est-ce que tu crois qu'un jour le monde deviendra sourd? Est-ce qu'on fera tomber nos masques de velours? Pourquoi c'est si facile de s'envoler la nuit, alors que dans la vie je danse dans l'ennui? Est-ce que tu crois qu'un jour tu crois on fera l'amour? Est-ce qu'on peut oublier qu'on s'aimait toujours? Pourquoi dans nos cauchemars on court au ralenti, alors qu'on voudrait bien s'enfuir très loin d'ici? Et si tu chantais,
si tu,
et si tu dansais,
si,
et si tu dansais,
si tu chantais,
et si tu dansais,
ah.
partout sous le soleil. Quand crieront les sirènes, est-ce que j'aurai sommeil? Allongé sous un ciel sans même une hirondelle. Quand rougira la grêle, est-ce que j'aurai sommeil? Si tu pouvais rien qu'un instant rire et redevenir avant.
Et si tu chantais de Johan au Johan sur le 101.5 FM de Radio G à l'écoute de Topette, Topette qui est, tout à l'heure on parlait des JNP, on va en reparler dans quelques instants, les Journées Nationales des Prisons avec Brigitte et Françoise, mais entre temps nous sommes partis du côté de Saint-James-sur-Loire et on est toujours avec Bruno et Nolwenn.
Exactement, et là on peut parler un petit peu plus du projet Avernet, donc c'est 12 foyers dont la construction va débuter en 2026 dans le quartier La Jolivetterie à Saint-James-sur-Loire. Est-ce que Bruno, vous pouvez un petit peu nous détailler le projet ?
Alors le projet, comme je le disais à l'instant, on cherchait plutôt un terrain dans la périphérie d'Angers. Voilà, il se trouve qu'il y a eu une opportunité, on a rencontré l'ensemble des communes périphériques, et là, c'est un concours de circonstances, on va dire. Il se trouvait que la mairie de Saint-James était en train d'aménager sur la ZAC de la Jolivetterie, un espace très très étendu, hein, avec différentes phases. Enfin, ça fait plus d'une dizaine d'années, je crois, que le projet est lancé. Et leur souhait, effectivement, était d'accueillir. Ils ont été assez sensibles à notre projet sur beaucoup beaucoup de plans, le point de vue écologique, mais aussi le point de vue associatif, le point de vue dynamique un petit peu que ça pouvait apporter sur un nouveau quartier, et du coup on s'est rencontrés, et voilà, c'était important, hein, c'était important pour tous les projets d'habitat participatif d'avoir un terrain, effectivement, mais aussi d'avoir des bonnes relations avec les municipalités, avec les parce que ça se potentialise, hein, toutes ces énergies. Et là, ça a été le cas.
Donc il y a 12 foyers en tout. Vous disiez tout à l'heure, l'habitat participatif, souvent c'est les personnes qui vont y habiter, qui l'imaginent, le conçoivent. Est-ce que c'est vous qui avez dessiné les plans ou pensé l'habitat?
Non, pas du tout. On n'en est absolument pas là, hein. Là, pour le point de départ, c'était un peu les fondations. Les fondations du projet, de trouver un terrain, de s'accorder sur une forme juridique, de s'accorder aussi sur un mode de gouvernance, comment on va fonctionner ensemble aujourd'hui, mais aussi demain. Voilà, on a opté sur un mode de gouvernance collective, on va dire. Et voilà. Après, il faut trouver une fois que le terrain a été trouvé, et là c'était un peu particulier parce que c'était sur une ZAC, donc on a participé avec les aménageurs un petit peu la conception des modes de circulation à l'intérieur de la ZAC, un petit peu comment on imaginait l'ouverture sur la commune de Saint-James. Voilà, il y a eu tout un tas d'ateliers participatifs auxquels on était avec les futurs habitants, avec les voisins, etc. Enfin, voilà, il y a eu tout un travail préalable avant d'imaginer vraiment, même si on l'imagine dans notre tête, mais enfin de se mettre au travail sur une planche à dessin avec un architecte pour faire les plans vraiment des logements, des bâtiments qui on espère vont voir le jour bientôt. Là, ça va se faire. Là, on va passer dans le concret bientôt.
Et quelle va être la prochaine étape? Alors, du coup, on est encore un petit peu au début.
Donc la prochaine étape, ça va être l'étape dans les semaines qui viennent, ça va être de constituer un groupe qui va être lui porteur de ce projet-là. Nous, on est 5-6 familles. Là, on a lancé un peu le projet. Maintenant, on veut construire un nouveau groupe, repartir, enfin c'est une nouvelle étape un petit peu pour l'Avernet, avec justement un groupe qui va travailler collectivement sur c'est quoi les besoins de chacun, c'est quoi les besoins du groupe, comment on imagine fonctionner ensemble dans la construction de ce logement, mais aussi dans la vie sur place une fois qu'on y sera.
Donc j'ai lu qu'il y avait la mutualisation des biens, notamment dans ce projet, notamment le jardin. C'est assez classique pour partager, mais il y a aussi la voiture, une laverie.
Voilà, alors il n'y a rien d'arrêté. Il n'y a rien d'arrêté. Ça, c'était un peu les choses qu'on avait imaginées au départ dans le groupe. C'est un peu des exemples. Il y a toujours, c'est le principe de l'habitat participatif, c'est qu'il y a des choses qui sont mutualisées. Voilà. Mais précisément, ça va dépendre de ce que souhaite faire le groupe. Il y a des groupes qui choisissent, on parle de la buanderie, je ne sais pas si on l'a noté, mais la buanderie d'avoir des machines à laver en commun. Bon, oui, c'est intéressant parce que ça, il y a des raisons économiques, il y a des, et puis il y a des raisons convivialité aussi autour de la machine à laver, c'est un point de rencontre. Mais il y a des gens pour qui c'est pas intéressant de laver leur linge ensemble, qui préfèrent l'avoir chez eux. Bon, ben, tout ça, ça va se mettre, ça va se discuter ensemble. Voilà. Et ça, c'est un petit exemple un peu anecdotique, mais le principe, c'est que on peut pas dire, c'est le groupe qui va décider. On peut pas dire à l'avance, de manière définitive, on va avoir une voiture. C'est une orientation que nous on a pris comme ça, mais voilà, ça va être rediscuté.
C'est un logement sur mesure ensemble.
Voilà, sur mesure pour soi-même et aussi pour ensemble.
Et pour en discuter, du coup, il y aura une réunion publique le mardi 19 novembre à 20h. Il y a déjà 6 familles au sein du collectif Avernet. Ça rencontre un certain succès. C'est à destination de qui, cette réunion ?
Alors, c'est à destination des personnes qui veulent en savoir plus sur l'habitat participatif, hein, et sur ce projet-là particulièrement, sur Saint-Jean. Alors, c'est évidemment à destination de l'ensemble des habitants de la région, enfin de la région
de France.
Il y a une personne de Nantes par exemple qui va probablement intégrer le groupe. Donc voilà, aujourd'hui les gens sont plutôt mobiles. Bon bah là c'est à l'échelle de 2-3 ans, hein, notre arrivée dans les lieux. Donc
en tout cas des personnes qui envisageraient de venir vivre à Saint-Jean.
Oui, voilà, des gens qui chez qui la ville de Saint-Jean et les paysages autour de Saint-Jean vont avoir plutôt une attirance, mais ça, c'est pas réservé évidemment aux habitants d'Angers ni aux gens de Saint-Jean, hein, on va essayer de communiquer sur l'ensemble de la région, quoi, l'ensemble et du département au moins.
Dès le début, vous avez été donc soutenu par la municipalité et la mairie. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vous soutiennent ?
Alors, il y a d'autres gens qui nous soutiennent, bien sûr. Il y a des gens aussi qui vont nous aider. On a choisi aussi d'être accompagné par une structure, des structures professionnelles, on va dire, qui ont l'habitude d'accompagner les groupes sur ces projets-là. Donc, ils seront présents ce soir-là, le 19 janvier. On travaille également aussi avec des bailleurs. On est en train de faire des bailleurs sociaux, hein, parce qu'on ne va pas construire nous-mêmes, et donc on va s'associer à des gens qui savent faire et qui vont pouvoir travailler avec nous. Donc il y a plusieurs entités comme ça qui vont nous soutenir.
Toutes les infos pratiques, on les redonne dans quelques instants. Merci beaucoup Bruno, merci Nolwenn. On redonnera aussi les infos concernant les journées nationales des prisons ici à Angers. On fait juste un petit détour par Beaugé. Connaissez-vous le gratte-loup de Beaugé ? Peut-être pas, et ben non, justement, c'est une légende imaginaire en Anjou qu'on écoute ce soir dans Topette.
Bienvenue dans notre chronique des légendes de l'Anjou. Aujourd'hui, nous allons vous faire frissonner avec l'histoire mystérieuse du gratte-loup de Beaugé, une créature fantastique qui a longtemps hanté l'imagination des habitants du Maine-et-Loire. Notre récit nous emmène dans la petite île de Beaugé, au cœur de l'Anjou. Cette cité médiévale, connue pour son château et son apothicairie, cache en son sein une légende plus sombre, celle du gratte-loup. L'histoire remonte au Moyen-Âge, à une époque où les forêts entourant Beaugé étaient plus denses et plus sauvages qu'aujourd'hui. Les habitants vivaient dans la crainte constante des loups qui rôdaient aux abords des villes. Mais une créature en particulier les terrifiait plus que tout, le gratte-loup. Selon la légende, le gratte-loup n'était pas un loup ordinaire. On le décrivait comme une bête de taille imposante, au pelage noir comme la nuit, avec des yeux rouges luisant dans l'obscurité. Mais ce qui le rendait vraiment terrifiant, c'était ses griffes, surdimensionnées, capables, disait-on, de déchiqueter le bois le plus dur. Le nom de gratte-loup lui venait de son habitude de gratter aux portes des maisons la nuit, comme s'il cherchait à entrer. Les habitants de Beaugé vivaient dans la terreur de ce bruit sinistre qui résonnait parfois dans les rues sombres de la ville. La légende raconte que le gratte-loup n'était pas une simple bête sauvage, mais une créature dotée d'une intelligence presque humaine. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un loup-garou. D'autres pensaient qu'il était l'incarnation d'un esprit maléfique de la forêt. Les récits sur les méfaits du gratte-loup étaient nombreux. On lui attribuait la disparition de bétail, mais aussi d'enfants imprudents qui s'étaient aventurés trop près de la forêt à la tombée de la nuit. Les chasseurs qui osaient le poursuivre ne revenaient jamais, ou alors ils réapparaissaient des jours plus tard, l'esprit dérangé, incapable de raconter ce qu'ils avaient vu. Face à cette menace, les habitants de Beaugé développèrent toutes sortes de rituels et de superstitions. Ils accrochaient des branches de houx aux portes pour repousser la créature, répandaient de la cendre devant leur maison pour détecter les empreintes et ne sortaient jamais la nuit sans porter un collier d'ail. La légende prit une nouvelle dimension lorsqu'un jour, un jeune berger affirma avoir vu le gratte-loup se transformer en homme. Selon ce récit, la créature aurait pris l'apparence d'un noble de la région connu pour sa cruauté. Cette révélation sema le trouble dans la communauté, alimentant les soupçons et la paranoïa. Les autorités locales, désespérées de mettre fin à cette menace, firent appel à un célèbre chasseur de monstres venu de loin. Cet homme passa des semaines à traquer le gratte-loup dans les forêts autour de Beaugé. La confrontation finale entre le chasseur et la bête est devenue légendaire. On raconte qu'elle eut lieu par une nuit sans lune, au cœur de la forêt. Les habitants de Beaugé entendirent des hurlements terrifiants et virent des lueurs étranges dans le ciel. Au matin, le chasseur revint épuisé, mais victorieux, tenant dans ses mains une énorme peau de loup noir. Depuis ce jour, le gratte-loup ne fut plus jamais revu. Cependant, la légende persista. Certains affirmaient que la créature n'était pas vraiment morte, mais qu'elle s'était simplement retirée plus profondément dans la forêt, attendant le moment propice pour revenir. Aujourd'hui encore, par les nuits d'hiver, lorsque le vent siffle entre les vieilles maisons de Beaugé, certains jurent entendre le grattement sinistre du gratte-loup. Les parents utilisent toujours cette histoire pour dissuader leurs enfants de s'aventurer seuls dans les bois. La légende du gratte-loup est devenue une partie intégrante du folklore local. Elle a inspiré des contes, des chansons et même des œuvres d'art. Chaque année, lors du carnaval de Beaugé, on peut voir des enfants déguisés en gratte-loup, transformant ainsi une ancienne terreur en une tradition joyeuse. Le gratte-loup de Beaugé, qu'il ait existé ou non, continue de hanter l'imaginaire collectif, nous rappelant que les frontières entre le réel et le fantastique sont parfois plus floues qu'on ne le pense. Chers auditeurs, la prochaine fois que vous promènerez dans les bois autour de Beaugé, tendez l'oreille. Peut-être entendrez-vous le grattement lointain d'une créature que l'on croyait disparue depuis longtemps. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant des mythes et légendes de l'Anjou.
Le gratte-loup de Beaugé sur le 101.5 FM de Radio G. On est à l'écoute de Topette. Topette qui prend fin ce soir. On a vraiment très très peu de temps, mais on va quand même donner les infos pratiques. En quelques instants, on va reprendre dans l'ordre chronologique avec Brigitte et Françoise concernant les JNP. Françoise, en un mot, tu me présentes s'il te plaît la cellule. C'est quand? C'est où? Et qu'est-ce qu'on peut y voir?
La cellule, c'est donc samedi toute la journée, le 16 novembre, en bas de la place Saint-Bac, dans la petite rue, au début de la petite rue qui mène place du Pilori. Et voilà, on sera présent, on va se relayer pour des permanences. Cette cellule, elle est posée là et elle intrigue les gens par sa petite taille. On peut dire à l'heure actuelle qu'il y a 3 détenus dans les cellules, hein. Il y a des matelas.
Oui, ça permettra de visualiser ça concrètement interpelle, la voilà. Situation. Brigitte,
d'un point de vue pratique, oui. Si je peux ajouter, donc c'est devant la Bourse du Travail et cette année, il y a une spécificité, enfin une nouveauté, c'est qu'il y aura une lecture de textes écrits qui ont été enregistrés sur bande-son par des élèves du Conservatoire d'Angers et qui va passer en boucle toute la journée. Donc on espère attirer d'autant plus les personnes grâce à cette bande-son.
Et en 15 secondes, Brigitte, puisque tu as la parole, concernant des hommes, les infos pratiques et utiles pour aller voir la séance et participer au débat.
Alors, ça se passe donc le 19, le mardi soir, le 19 novembre. Ça se passe au 400 coups à 20h. Et ce sera en présence, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de la directrice de la maison d'arrêt, du procureur de la République, du président de l'association Olivier Girand et peut-être d'un avocat pénaliste. pour parler sur le thème la prison, une peine familiale.
Merci beaucoup. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais je cite quand même Secours catholique, LDH, Emmaüs, Olivier Giron, Croix-Rouge française, et il en manque un, mais j'ai pas le... les Alcooliques Anonymes, oui. C'est pour ça, qui sont aussi partenaires de l'événement. Merci beaucoup. On se dit certainement à l'année prochaine. Toujours un plaisir de partager aussi ces événements. Bruno, du coup, en 20 secondes, concernant l'habitat participatif, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que c'est et du projet Avernette?
Alors, Avernette, ça veut dire aventure patois angevin. C'est une aventure collective et c'est aussi une aventure individuelle. Voilà, réunion publique. Donc, je suis désolé, c'est le même jour. Alors, vous allez venir à plusieurs et vous allez vous partager.
On a plein d'auditeurs. Mais...
Radio G. En RNT à Angers. Radio G, un point, c'est tout.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant.